des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M. Cette fois-ci, c'est pour l'émission Des livres plein les oreilles. Je vous retrouve à chaque semaine avec des invités pour évoquer avec vous des titres de livres qui ont été enregistrés en audio adapté. Donc pour vous, si vous avez des difficultés pour manipuler les livres imprimés. Et vous savez que ce service est absolument gratuit, hein, je vous le rappelle, parce que si vous passez par le service québécois du livre adapté via la Grande Bibliothèque, ici, eh bien, vous pourrez accéder à tous ces livres dont nous parlons aujourd'hui, à moins qu'ils soient disponibles via l'INCA, c'est possible aussi. Alors aujourd'hui, à l'émission, je vais m'entretenir dans quelques secondes avec André Vincent qui a lu pour vous, pour nous et qui nous en parle une biographie de Jacques Parizeau. Je reçois la cinéaste. Vous allez voir, c'est une émission très, très basée sur l'histoire aujourd'hui. Je reçois Anne de Léan qui nous a servi un livre merveilleux qui s'appelle « Sans faire d'histoire » qui est bourré d'anecdotes sur le Québec dont vous ignorez absolument tout. Mais après avoir lu ce livre, vous saurez absolument au courant de tout. Et puis je reçois l'incontournable Gérard Saint-Denis qui aujourd'hui, lui, vient nous parler de livres qui sont écrits autour de célébrités québécoises. Alors quand je vous dis qu'il sera beaucoup question d'histoire à cette émission-là, c'est vrai. Alors je vais tout de suite me tourner vers André Vincent qui doit être au bout du fil. Jingle. Bonjour André.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous de même?
Mais je vais très très bien. Je suis toujours impressionnée quand je vous parle et je ne sais jamais si je devrais vous appeler Monsieur Vincent ou André.
Alors André, ça me va très bien.
André, ça vous va très bien. Bon, ben écoutez, c'est parfait. André, vous êtes un des habitués, même si ça faisait déjà pas mal de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir se parler à cette émission des livres plein les oreilles. Je voudrais juste prendre un petit 30 secondes pour dire que entre autres, vous nous avez fait faux bond parce que vous êtes parti en Europe, parce que vous êtes un passionné d'échecs.
Oui, c'est bien ça.
Avez-vous gagné?
J'en ai gagné 3 sur 7.
3 sur 7?
Pour une première fois là-bas, c'est j'étais très satisfait.
Écoutez, je voudrais...
À tel point que j'y retourne en mai prochain.
C'est vrai. Alors, je vais vous oublier pour le mois de mai, c'est certain.
Voilà.
André, vous avez choisi de nous parler non pas d'une mais de trois briques puisque c'est une biographie non autorisée d'ailleurs hein, de Pierre Duchesne sur Jacques Parizeau.
Oui, c'est bien ça. J'ai lu en 2015 et d'ailleurs je suis en train de poursuivre la lecture. Vous l'avez dit, il s'agit de trois
tomes, hein, c'est ça.
La biographie de Jacques Parizeau, écrite par Pierre Duchesne. J'ai choisi ça entre autres parce que vous savez que j'aime beaucoup l'histoire et notamment l'histoire du Québec. Et que Jacques Parizeau a marqué cette histoire-là et c'est un de nos grands disparus de l'année 2015. Alors, j'ai choisi de vous parler de cette biographie à laquelle Jacques Parizeau a quand même collaboré en répondant à des questions de l'auteur, même s'il s'agit, comme vous le dites, d'une biographie non autorisée.
Oui. Alors, elle est faite de rencontres, elle est faite... En fait, bon, ce sont vraiment trois grosses périodes. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu au deuxième, troisième tome, vous êtes rendu...
Oui, mais j'ai une bonne idée même du troisième.
Ah, c'est ça. Alors,
pour résumer un peu les choses, il s'agit de trois tomes. Le premier couvre la période de 1930 à 1970. Et on a l'occasion là, de voir, c'est toujours intéressant, les origines d'un personnage célèbre. Et on parle bien sûr de l'enfance de Jacques Parizeau, de ses études au collège Stanislas à Montréal, de ses études supérieures ensuite en France et surtout à la London School of Economics en Angleterre. parce que Jacques Parizeau est d'abord, au départ, un économiste et un enseignant, d'ailleurs, qui a continué presque toute sa vie à enseigner à l'École des hautes études commerciales.
Et un professeur apprécié, hein, adulé, un professeur, en tout cas, au moment de sa mort, on le disait aussi de son vivant, du reste, mais enfin...
Très apprécié. Et donc, ce premier tome... qui est, disons, alimenté par les commentaires de beaucoup de personnes, des anciens professeurs, des collègues, les notes du journal de son père qui était dans le domaine des assurances. Mm-hmm. Et ça nous parle, bien sûr, de toute cette période fascinante du début de la Révolution tranquille, les années 60 à 70. Ce que peut-être bien certaines personnes ne savent pas, c'est que Jacques Parizeau, avant d'être membre du Parti québécois et l'homme public qu'on a connu, a été un des grands artisans de cette révolution tranquille, puisqu'il était conseiller économique sous Jean Lesage, sous Daniel Johnson. Oui. Il a collaboré à la mise en place de nos grandes structures financières, la Caisse de dépôt, plus tard le régime enregistré d'épargne-action et tout ça. Donc, c'était vraiment un bâtisseur là, de notre structure financière qu'on connaît maintenant.
Alors, cette première période, dites-moi si je me trompe, mais ça se termine au moment où le Parti québécois se relève assez péniblement, finalement, des conséquences de la crise d'octobre.
Tout à fait. D'accord. Alors, on voit cette période-là, comment Jacques Parizeau l'a lui-même vécu, toute cette période-là, et son passage au Parti québécois, donc sa conversion à l'idée de souveraineté. Et tout ça. D'accord. Et ça nous mène ensuite au deuxième tome qui, lui, va couvrir toute cette période de 1970 à 1985. Et là, on voit Jacques Parizeau qui franchit diverses étapes, les premières campagnes électorales de 70 et de 73, où malgré des résultats de pourcentage très intéressants, le Parti québécois n'a pas obtenu beaucoup de députés à l'Assemblée nationale.
Non, c'est ça.
Ça nous apprend aussi à connaître le Jacques Parizeau de façon plus intime, qui il est, son caractère. On voit notamment son côté un peu, devrais-je dire, paranoïaque, lui qui se méfiait beaucoup et qui voyait un peu partout des complots du gouvernement fédéral.
Ah oui.
Il avait même mis en place lui-même une sorte d'équipe du renseignement pour essayer de démasquer ces complots-là. Il y a même une anecdote qui raconte qu'à un moment donné, lors de la présentation d'un de ses premiers budgets, il s'est rendu compte en le lisant devant l'Assemblée nationale qu'il manquait une page. Alors, il a fait une colère terrible par la suite. Il pensait qu'il y avait un complot derrière ça, alors que c'était un simple problème de feuille oubliée dans le photocopieur. Et ça nous montre un peu qui était l'homme à certains égards. Et bien sûr, ce deuxième tome va nous permettre de vivre la première campagne référendaire. On va voir un petit peu là, les tiraillements qu'il y avait entre certains, Jacques Parizeau et certains de ses collègues, notamment Claude Morin, qui n'avait pas du tout la même vision que lui. Et au moment de la préparation de la question, justement, la fameuse question de mai 80, ben Jacques Parizeau a failli presque donner sa démission parce que...
La question qu'on finissait plus, là. Hein?
Voilà. Et lui avait souhaité une certaine formulation. Quelques heures avant sa présentation, son point de vue semblait acquis. Puis, durant la nuit, tout ça a été modifié par des jeux de coulisses. Alors, il n'a pas très apprécié cette façon de faire. Donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de voir l'homme et non seulement
l'homme politique, c'est ça.
Et surtout, l'intérêt de ces trois tomes, puisque le temps passe et je parle du troisième, qui va parler des années donc où il quitte René Lévesque en 85, donne sa démission. Et là, on va voir un peu plus tard l'histoire de la fondation du Bloc québécois et toute la période de l'élection de Jacques Parizeau en 94 et le deuxième référendum qui a eu cette fin malheureuse et cette déclaration dont on continue à parler encore beaucoup.
Oui, absolument.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jacques Parizeau est probablement parmi les gens qui ont soutenu le souverainisme, la souveraineté. C'est probablement un des plus sincères. C'est lui qui avait une vision peut-être la plus radicale. Lui, il croyait vraiment la souveraineté. Avec ou sans association, d'ailleurs, l'objectif premier, c'était vraiment l'indépendance du Québec pour lui.
Oui, c'est ça. Et écoutez, c'est tellement passionnant, on pourrait passer... J'avais plein de questions, par exemple, je me demandais, à la lueur de tout ça, d'après vous, quelle était sa plus grande qualité, son plus grand défaut, etc., etc. Et on va manquer de temps, et du temps, je veux en garder, et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai devant moi une jeune femme qui a écrit, elle s'appelle Anne de Léon, je ne sais pas si vous la connaissez de nom. Anne de Léon est une réalisatrice et elle est également auteure d'un livre formidable qui s'appelle « Sans faire d'histoire » sur des anecdotes méconnues qui ont fait le Québec, c'est le sous-titre. Et lorsque l'émission va passer dans 2 semaines, j'espère, André, que vous pourrez écouter Anne de Léon parce que vous, l'historien, vous allez adorer ce qu'a écrit cette auteure réalisatrice.
Avec grand plaisir, et j'ajouterai en terminant que cet ouvrage de Jacques Parizeau, autre aspect intéressant, c'est qu'il est disponible au SQLA, mais aussi bien en format audio qu'en
braille,
format
braille,
ce qui est intéressant parce que plusieurs de vos auditeurs sont aussi des lecteurs de braille.
Exactement. Vous faites très, très bien de le rappeler, André, et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite une très belle journée et on essaie de se reparler avant que vous repartiez jouer aux échecs en Europe.
Avec grand plaisir et je vais écouter attentivement votre prochaine invitée.
D'accord. Je vous rappelle son nom, c'est Anne de Léon. Je la reçois dans quelques secondes. Passez une très belle journée.
Vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
Anne de Léon, la table est mise. Je vous ai déjà annoncé.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, vous?
Très, très bien aussi. Je suis vraiment heureuse. Vous savez, les hasards, on pourrait penser que j'ai fait exprès d'avoir Anne de Léon à la même émission qu'André Vincent qui nous parle de Jacques Parizeau, d'un autre chroniqueur, Gérard Saint-Denis, qui va venir en seconde partie pour nous parler de livres autour de célébrités québécoises. Et pas du tout. C'est toujours des hasard. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais dû ramer avec les dates et tout. Maintenant, je laisse faire la vie et la vie est bien faite. Vous avez dû être très intéressé par ce que disait André Vincent sur Jacques Parizeau, vous qui aimez l'histoire.
Oui, ben moi je trouve ça toujours fascinant d'entendre des histoires sur ce qui a pu bâtir le Québec.
Oui, exactement. Parce que, et avant qu'on parle de ce livre, je voudrais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui nous connaissent ou peu ou pas. Vous êtes d'abord et avant tout réalisatrice.
Oui.
Parlez-nous d'abord de votre métier de réalisation.
Oui, moi je suis principalement réalisatrice en télévision.
Oui.
Je réalise des séries, que ce soit des séries comme 30 vies, Virginie, de la série aussi pour enfants, par exemple comme Les Argonautes.
Okay.
Et aussi je touche un peu au cinéma à travers les courts-métrages, tout ça. Donc, voilà. Alors, sans faire d'histoire, c'est un projet que j'ai développé dans le cadre de mon travail de réalisatrice. Il y a eu un appel de projet pour des projets de séries web.
Uh-huh.
Et souvent, les gens vont vers la fiction ou vers l'humour. Mais je me suis dit, ce serait amusant de faire une série documentaire, mais plutôt légère pour le web. Et j'avais eu cette idée de série...
D'anecdotes
historiques sur le Québec. Et voilà.
Et l'idée vous est venue comme ça ou vous avez déjà, vous nourrissiez déjà une passion depuis longtemps
pour
l'histoire, pour le Québec, pour
Moi, je ne suis pas du tout historienne de formation, mais j'aime ce type d'histoire qui est plutôt, c'est ça justement, légère et ludique. Et c'était en fait une anecdote que ma mère m'avait racontée sur l'Expo 67 qui m'avait raconté que lors de la cérémonie d'ouverture, comme le gazon était jauni et que les organisateurs voulaient être certains que la cérémonie allait être de tout éclat, avaient peinturé le gazon en vert. Et juste pour la petite histoire, c'est le maire Bourque qui était à ce moment-là, qui avait 23 ans et qui était horticulteur en chef de la ville de Montréal, qui avait eu cette idée-là. Donc, je me disais, mais ça, c'est intéressant de comprendre les événements à travers ces petites histoires-là qui ouvrent la porte vers ces grands événements-là. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette série.
Sauf qu'au départ, ça ne devait pas être un livre. On parlait d'une série pour la télévision.
Exactement, mais le projet avait trouvé, les gens le trouvaient très intéressant, mais à chaque fois qu'on montait une structure financière, justement, les archives vidéo pour accompagner le projet, c'était un peu plus dispendieux. Donc, ça a été difficile de trouver preneur. Et puis, tout à coup, le projet s'est transformé en livre parce que ma productrice est aussi éditrice pigiste. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire en livre? Donc, voilà. Pour une autre anecdote sur ce projet-là, c'est pour ça que c'était, au départ, c'était une série de 1940, des anecdotes de 1940 à 1999, parce que je voulais avoir des archives vidéo faire un projet. Et comme c'est devenu en livre, on a ouvert de 1900 à 1999.
Alors, je dois dire, et j'espère ne pas frustrer les auditeurs qui nous écoutent, vous qui avez peut-être perdu votre vue, et c'est vrai que c'est un livre aussi dont la forme, j'arrive pas à trouver le mot, visuellement, c'est assez extraordinaire. C'est très coloré. On parle d'une pochette très rigide, en carton très rigide. On parle de, beaucoup de photos en noir et blanc, beaucoup d'anecdotes, ou alors aussi, photos en couleur. D'ailleurs, ça se finit sur 1967. Hein, ça se finit sur l'expo. Donc, c'est vrai que ce livre est aussi intéressant, honnêtement, visuellement, voilà les mots que je cherchais, que dans le contenu en tant que tel. Mais rassurez-vous, bien sûr, la personne qui a lu ce livre-là fait la description également de toutes les photos qui s'y trouvent. Alors, il y a combien de chapitres en tout?
Il y a 26 petites histoires.
J'imagine qu'il y en avait plus que ça. Il faut faire un choix à un moment donné.
Oui, on a fait un choix. En fait, j'ai fait un choix selon les époques pour essayer d'avoir chacune des décennies représentées aussi. Et puis, voilà.
Alors là, ça va être très frustrant. Parce que on aurait envie de parler d'absolument, et c'est vrai, de toutes les anecdotes qui sont comprises là-dedans, soit parce qu'elles sont drôles, évidemment, soit parce qu'elles sont instructives, ou parce qu'elles sont tragiques parfois. Hein. Il n'y a pas que du drôle. Je pense à la... est-ce que c'est un cinéma qui avait brûlé?
Oui.
Évidemment, je n'étais pas encore là à ce moment-là, mais ça a été terrible. Comme une quarantaine d'enfants qui sont morts là.
C'est un cinéma dans le quartier Hochelaga à Montréal qui a brûlé. Et ça a été une histoire assez tragique parce que c'était un cinéma à deux étages avec un balcon. Et les enfants étaient tous montés au balcon pour écouter la représentation. Et lorsque le feu a pris, il y a eu panique. Et les enfants se sont mis à descendre l'escalier très, très rapidement. Et la porte de l'escalier ouvrait vers l'étage et non pas vers l'extérieur. Donc, les enfants se sont tous empilés dans l'escalier et sont morts asphyxiés. Et suite... Cet incendie-là, c'est pas juste un fait divers tragique, mais c'est un fait divers qui a changé un petit peu le Québec parce que maintenant, dans une salle de spectacle, les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et doivent être munies de barres panique. Et c'est dû à cet incendie-là que maintenant, c'est
depuis
sur...
Depuis que ça se fait comme ça.
Et c'était un dimanche et les gens... on commençait à dire peut-être que on devrait bannir les sessions le dimanche, aller à l'église et tout ça. Et ça a été aussi un des constats de la commission d'enquête autour de cet incendie-là que le cinéma, c'était pas un péché et on pouvait continuer d'y aller.
Non, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, et puis alors, moi, il y a des choses qui m'ont fait terriblement sourire, comme l'affaire de la bière. En même temps, c'est pas drôle parce qu'il y a un type qui a quand même été intoxiqué.
Oui, mais en fait, c'est...
C'est une bière qui tue en 1965, là.
Oui, dans la région de Québec, c'était à cette époque-là, la bière Dow était une des bières les plus populaires au Québec avec des parts de marché de 85% dans la région de Québec. Et tout d'un coup, à une certaine période, il y a plusieurs jeunes hommes qui étaient... pour la plupart dans la trentaine, en bonne santé, qui sont arrivés à l'urgence présentant des problèmes cardiaques très importants. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns qui sont décédés, d'autres qui ont été gravement malades. Et le seul point commun entre tous ces hommes, c'était qu'ils habitaient dans la région de Québec et qu'ils buvaient de la bière, mais pas une bière de temps en temps, qu'ils buvaient de la bière quand même.
Des bons buveux de bière. Oui.
Donc là est partie cette enquête sur qu'est-ce qui se passe à la bière, dans la bière d'or, et jamais ça a été résolu. Il y a eu des pistes d'enquête, mais il n'y a jamais eu de constat, là, à savoir est-ce que c'était de la bière ou pas, est-ce que c'était...
Petit encart que je vous lis. Arme de destruction massive. Lorsque Dow décide de retirer, parce qu'il faut voir que c'est à ce niveau-là que c'est aussi très intéressant, c'est qu'il y a le contenu principal et il y a toujours des petits encarts à côté qui sont absolument délicieux. Mais et quelle recherche ! Il faut qu'on en parle d'ailleurs de la recherche. Lorsque Dow décide de retirer tous ses produits du marché, cela prend environ 10 jours pour récupérer l'entièreté des bières disponibles à la vente dans les épiceries, les hôtels, les restaurants et les tavernes de l'est de la province. On raconte que pour déboucher plus rapidement les bouteilles de milliers de bouteilles, les capsules de milliers de bouteilles, les employés de la brasserie ont fabriqué de façon artisanale un ouvre-bouteille qui enlève 5 bouchons à la fois, artisanalement, et c'est sous la supervision des ministres de la Santé fédérale et provinciale, et alors là, c'est là où le punch arrive, que la bière Dow est jetée aux égouts. C'est ainsi que 500 000 gallons de bière sont déversés, où vous pensez, dans le fleuve.
C'est incroyable.
C'est, je viens de penser, évidemment, on pense tous à ce déversement qu'il y a eu là, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est complètement fou. Et on n'a jamais trouvé, mais ils n'ont quand même pas fermé.
La bière a complètement perdu ses parts de marché, a vivoté un moment, il y a eu des fusions-acquisitions. Puis finalement, la marque a fini
par disparaître.
Oui, par disparaître. Et c'était la bière la plus populaire du Québec, donc voilà.
Anne de Léan, pour ce livre dont je rappelle le titre « Sans faire d'histoire », vous avez dû... faire une recherche, excusez-moi l'expression qui me vient, c'est de moine. Je veux dire, vous avez dû travailler tellement et vous avez dû vous faire aider aussi. Vous avez des gens, parce que vous êtes toute jeune en plus. Donc, ce sont la plupart du temps des événements que vous n'avez pas connus.
Bien, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient été racontées. Il y a beaucoup d'événements que je connaissais. Souvent, je pars d'un événement que je connais et je cherche autour.
Oui.
Parce qu'on peut trouver des choses, juste des petits filons, puis tout à coup, on trouve cette anecdote-là qui raconte l'histoire. D'autres, je suis arrivée dessus par hasard, comme cette anecdote-là sur Elizabeth Taylor, qui est venue se marier à Montréal et qui a amené, d'une certaine façon, à sa manière, qui a participé au débat sur l'implantation du mariage civil par plusieurs concours de circonstances. Mais ça, c'était juste dans un des articles de journal de l'époque. Il y avait juste un petit entrefilet sur les droits civils. Ouais. Et puis, j'ai suivi cette piste-là et voilà, l'histoire est racontée comme
et,
ça.
Vous citez quand même beaucoup de gens qui vous ont donné un petit coup de main. Parmi ceux qui vous ont aidé dans vos recherches, il y a, comment il s'appelle, M. Houle, qui est là-dedans?
Oui.
Pierre?
Oui.
Non, c'est pas Pierre, c'est son frère. Comment est-ce que
Paul Oud, oui.
Paul Oud, voilà, c'est ça.
Donc, Paul Oud, oui, en fait...
Monstre de connaissances!
Ben oui, alors, je lui ai parlé, je l'ai rencontré dans le cadre de mon anecdote sur la flamme olympique, parce que Paul Oud a été porteur de la flamme olympique.
La fameuse flamme qui s'est éteinte.
Exactement. Donc, il a pu me raconter plein d'anecdotes. Lui, les gens étaient... se voyait attribuer chacun des tronçons du chemin à parcourir avec la flamme. Et lui, il s'est fait attribuer une côte qui est ascendante. Donc, il a trouvé assez, assez long son kilomètre. Mais donc, voilà, il me racontait que le design de la flamme qui avait été reconnu comme très, très beau partout dans le monde, le flambeau, là, de coupole... était mal scellé.
Conçu, mal scellé.
Et toute l'huile coulait. Donc, les coureurs se finissaient avec les mains brûlées. Donc...
Non, mais c'est fou. Là, je vois l'œil de Jean-Sébastien qui s'agrandit parce que je souhaite vous donner l'envie, justement, à vous aussi, de découvrir ce livre. En tant que Française, moi, il y a un truc qui m'a tellement amusée. C'est la visite de Charles de Gaulle et la célèbre phrase « Vive le Québec, vive le Québec, libre ». Et moi, je pensais, du moins ce que j'avais lu, c'est que, parce que chez nous, c'était bien connu que Charles de Gaulle avait beaucoup de mal à mettre un point. À ces phrases. C'était quelqu'un qui finissait souvent ses phrases en l'air. Et là, du coup, tout le monde, avant d'applaudir, attendait soit l'adjectif, soit le mot, en tout cas, qui allait vraiment ponctuer l'idée. Bon. Et là, moi, j'avais entendu qu'il était là sur le balcon et qu'il avait dit, et pour finir, et voilà, et vive le Québec, vive le Québec. Libre. Et, mais d'abord, ce n'était pas les derniers mots, finalement. Et puis, vous racontez pourquoi il en est venu à dire ça. C'est qu'avant, il y a une tournée dans la province.
Exactement. Il est arrivé à Québec par bateau. Et on lui a fait une grande fête à Québec. Et ensuite, il est parti jusqu'à Montréal par cortège automobile. Donc, tout le long du chemin, c'était décoré avec des drapeaux du Québec, oui, des fanions. Ça, semble-t-il qu'il y avait même des fleurs d'Élysée peintes sur la route. Tout ça, il a fait, je crois, 6 allocutions. Et à chaque fois, le ton montait, l'énergie montait à un point tel qu'il y a même un intervenant qui a dit « Si ça continue, arrivé à Montréal, le Québec sera séparé. » Tellement, il était passionné. Et arrivé à Montréal, il était galvanisé par la foule qui s'est... Et j'ai même une photo dans le livre. Et c'est vraiment des quantités incroyables de personnes qui s'étaient massées devant l'hôtel de ville. Et semble-t-il que c'était un très, très grand myope. Charles de Gaulle, qui avait des très grands problèmes de vision, et ils l'ont amené de la signature du livre d'invité. Ils voulaient l'amener jusqu'à la terrasse de l'hôtel de ville en arrière pour un petit cocktail avec des invités. Ouais. Et lui est passé devant le balcon et a entendu la foule et a commencé à aller vers le balcon et son aide de camp, pensant que c'était sa myopie qui le faisait dévier de son chemin, a essayé de le retenir, mais non. Lui s'en allait au balcon,
oui,
s'en allait voir la foule.
Il y avait les micros quand même.
Oui, sauf que le micro, les gens de l'hôtel de ville, au début, ont dit, bon, ça a été comme un malentendu. Il y a un technicien qui s'est organisé pour qu'il y ait un micro, et on lui a dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, l'enlever, tout ça. Oui. Et lui, il n'a fait que le débrancher. Il n'a pas enlevé l'appareil. Donc, quand Charles de Gaulle a vu ça, il a demandé tout de suite à ce qu'on le rebranche. Voilà.
Allez, hop,
et le
c'est
reste,
comme
c'est
ça.
Et l'histoire.
Ouais. Exactement. Et évidemment, du côté fédéral, on n'était pas très contents, à tel point qu'il y a même eu une rencontre qui a été annulée, je pense. Il a repris l'avion.
Oui, il est parti. En fait, il devait rester plus longtemps et ça a été une bombe incroyable.
Mais
donc, le premier avion, il est reparti. Et on n'a jamais su s'il avait planifié son mot ou pas. Mmh. Certaines personnes croient que oui, effectivement, il avait pensé d'avance. Et puis, il y avait ce message-là à laisser.
Ben écoutez, le peu que j'ai lu sur De Gaulle, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui faisait des choses au hasard, mais sait-on jamais. Ça appartient encore à l'histoire. Ouais. Et de la même manière que maintenant, je suis contente de voir que ce livre appartient aussi à l'histoire de la littérature, ici au Québec. C'est un incontournable. Allez vous chercher ce bouquin qui ne réclame qu'une chose, c'est une suite.
Oui,
possible ou pas?
Ben je travaille présentement une suite, oui. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il y a déjà des histoires trouvées pour un tome 2, aussi surprenantes que celles dans le tome 1.
Eh bien, écoutez, bravo, Anne de Léon, vraiment. Je redonne le titre, Sans faire d'histoire, anecdotes méconnues qui ont fait le Québec, signé Anne de Léon, en deux mots, de Léon, L-E-A-N. Et Anne de Léon, que j'ai été ravie d'accueillir et que j'accueillerai une nouvelle fois avec grand plaisir lorsque le tome 2 aura été lu et sera disponible en audio.
Merci beaucoup.
Passez une belle fin de journée.
À vous aussi.
Et bonjour à la petite Héloïse. Salut.
Merci.
Des livres pleins les oreilles, la seconde partie. Et puis tiens, on va commencer ça par une chanson, juste pour faire plaisir à mon ami Gérard Saint-Denis, que je retrouve dans quelques minutes.
Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Car de mon bras me tient ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras me tient ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, Regarde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis, je ne tombe pas. Mais tu ne la vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seule. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime.
Gérard.
Vous avez réussi, Madame Clotilde. Vous avez réussi à m'arracher mes premières larmes de 2016.
Oh, Gérard.
Je suis content, mais j'adore pleurer. Plus je vieillis, plus j'aime ça.
Oh, Gérard, arrêtez, oui, je vais m'y mettre aussi.
Ça fait partie de mes émotions. Puis les gens qui nous écoutent, là, j'aimerais ça qu'ils réfléchissent à ça. Et faut pas se cacher, même des hommes ont le droit de pleurer.
Ah,
j'aime tout ça, merveilleux. Et cette femme formidable, oui, merveilleuse, grande,
ben oui,
dynamique, qui nous incarne, on l'aime bien.
Ah,
et on peut lire sa vie, on peut lire sa vie. J'ai choisi,
ah, oui, hein?
J'ai choisi Alenka par Michel Chanona, C-H-A-N-O-N-A, Michel Le.
Oui.
On a un beau, une belle biographie de Ginette Renaud qui nous parle d'elle, de ses... ses élans, c'est ce qu'elle a fait,
oui,
et ses grands moments et ses, oui, faiblesses aussi, etc.
Oui, ses faiblesses et ses batailles, et c'est quelqu'un en plus qui donne beaucoup.
Le peuple québécois, c'est ça.
Ah oui.
Et j'ai hâte de la voir, je vous dis ça, là. J'ai hâte de la revoir, nous chanter l'hymne national pour nos Canadiens gagnent.
Oui, oui, mais je vous comprends. Écoutez, c'est un personnage absolument incroyable. Moi, là, j'ai eu l'occasion de la côtoyer à quelques reprises lorsque j'étais dans la Grande Tour à côté, dont une fois sur une émission sur la voix que nous avions réalisée. C'était bien avant que n'existe l'espèce de jeu là, du dimanche,
oui,
soir. Là, c'était vraiment une émission sur la voix. Bon, comment ça fonctionne et tout ça. Écoutez, quand une femme comme Ginette Renaud chante à côté de vous, là, genre à 2 mètres à côté de vous, là, j'aime mieux vous dire une chose, mon petit Gérard. Les cheveux vous battent au vent. C'est pas mélant.
je dois vous dire que moi, j'ai pas eu le plaisir de l'écouter aussi près que de moi. Là,
ouais, ouais.
Mais plus jeune, j'ai eu le plaisir d'être à côté de Jacques Brel.
Mm-hmm.
Et c'est fantastique. Quand tu es à
2 mètres là, d'un chanteur comme ça.
Oui.
Ça fait quelque chose aussi. Il y a comme une vibration merveilleuse. En tout cas, pour nos lecteurs,
alors,
je les invite à aller voir ça. Ça se lit très bien. C'est facile de lecture, etc.
D'accord.
Ce sont des personnages que j'ai pris, des personnages un peu québécois, puis quelques-uns canadiens. Parce que l'autre livre que je suggère, c'est faire une petite rétrospective des 20 premiers ministres du Canada.
Ah!
Oui, on parle de McDonald's, mais on parle aussi de... Il y en a que les plus vieux vont se rappeler de Diefenbaker.
Oui.
Bon, nous autres, on a entendu parler de Wilfrid Laurier et Mackenzie King, on ne les a pas connus, mais
non.
Diefenbaker, on a Lester Burson, Pierre-Éliott Trudeau, de Brian Marioni, de Jean Chrétien, de Paul Martin. Mais c'est court, c'est bref, puis c'est dynamique. Ça va très bien. Ça se lit très bien.
OK, donc on en apprend beaucoup sur ces gens-là.
On trouve ça au SQLA.
OK.
Des 20 premiers ministres, et c'est écrit par Jacques Lamarche.
D'accord.
Après
ensuite.
Ça, j'ai opté pour la terre, madame. J'ai hâte à mon jardin, là.
Ben oui. Ben oui.
Le frère Marie-Victorin. Ah, quel personnage merveilleux.
Alors, je suis contente, parce que pour moi, Marie-Victorin, c'est un paquet de routes, un paquet de routes, de boulevards, d'avenues, de mamées, je sais absolument.
Mais c'est bien plus que ça.
Mais je le sais, alors qui...
Gilles Baudet nous trace la vie, justement, d'un bonhomme qui a mis en place le jardin botanique, et c'était un passionné. C'est un passionné.
Ah oui, c'est à lui qu'on doit le jardin botanique.
Quand on dirait qu'on transmet ça aux autres.
Oui,
C'est merveilleux. Jardinage, les plantes, etc. C'est très, très agréable, c'est facile.
Mm-hmm.
C'est une belle biographie. Parce que moi, je ne suis pas tellement porté sur les biographies, mais ça, j'aime ça. Quand j'ai une raison d'être passionné par rapport à l'œuvre de personnes en question.
Ben oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous aime aussi, parce que du coup, vous nous en parlez bien, Gérard. Allez,
mais là, je
vais continuer.
Je vais continuer avec une autre personne culte, une autre icône dans l'histoire du Québec, le cardinal Léger.
Oh ben.
C'est Michel Lachance.
Micheline Lachance, oui.
Oui, qui nous parle de lui. C'est un bonhomme. Moi, j'ai travaillé avec. Moi, j'ai été secrétaire général de l'Action catholique, puisque c'était c'est lui qui était mon évêque.
OK.
Je voyais souvent. Et c'est un bonhomme qui a fait des choses fantastiques. Et qui a fini de façon très modeste. Il a décidé de s'en aller dans une retraite, si on veut, près des lépreux, etc. Il faut le faire.
Ah oui.
Il faut le faire. C'était un gars qui était cardinal, qui était encore cardinal.
Oui.
Mais ce bonhomme-là avait une façon. Je sais que, vous savez où est situé l'archevêché de Montréal par rapport au Reine-Élisabeth, c'est à côté.
Oui, oui.
Et quand il voulait avoir quelque chose, il appelait à 3 ou 4 amis, des amis qui avaient de l'argent, puis il donnait rendez-vous au Reine-Élisabeth dans un petit salon.
Oui.
Et il s'occupait de la note. Puis il allait chercher l'argent.
Mais écoutez, vous nous donnez de bonnes idées. C'est peut-être ça qu'on devrait faire. Aller dans des grands hôtels, puis aller chercher l'argent là où est l'argent.
Ouais.
Oh.
Après ça, je ne m'ai pas passé sans...
Ben non.
Je peux pas passer sans parler de Maurice Richard.
Ben non.
Maurice Richard, vous savez, Maurice Richard, il est né en 21, puis il est mort en 94.
Mm-hmm.
Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est mort, mais le hockey se perpétue.
Oui.
Jean-Marie Pelletier nous le présente. C'était l'aîné de
Jean-Marie Pelletier, excusez. Hein, c'est bien ça, c'est Jean-Marie Pelletier qui a... D'accord.
C'est ça. Et Maurice, il était l'aîné de 8 enfants. Il vient d'une famille modeste. Et les gens ne savent peut-être pas qu'avant de jouer au hockey, il était machiniste puis il était commerçant. Il a vécu dans le secteur de Bordeaux, près de Ville-Saint-Laurent. C'est fun, c'est agréable, c'est une biographie qui est merveilleuse.
OK.
Pour le bien du plaisir.
Bien écrite, évidemment, qui relate tous les événements.
Ça nous rappelle, on est en période de hockey, ça nous rappelle ça.
Mais...
Là, je termine sur le choix. Mon choix.
Voilà, votre petit préféré à vous.
Ouais. Le curé Labelle. Je ne sais pas, ça fait quelques semaines, deux, trois semaines qu'on voit maintenant l'émission « Les pays d'en haut ». Et c'est ça. Ça nous permet de revenir sur toute la question de la colonisation. Et qui était vraiment le curé Labelle, qui aujourd'hui est si bien incarné par notre ami...
J'allais dire Louis Cyr, mais on sait... Bertrand.
Notre ami, comment il s'appelle...
Antoine Bertrand.
Antoine, c'est ça.
Voilà.
Et d'ailleurs, c'est... il n'était pas curé, là. Il était un bâtisseur.
Oui.
Un bâtisseur, c'est un politicien avant d'être un curé.
Ouais. Oui, oui, oui.
On apprend aussi, par exemple, que... Il a fait des choses, il a été curé d'une paroisse, il est né à Sainte-Rose, OK? Il a été curé de paroisse près des lignes américaines.
OK.
Et puis, tout à coup, en 1867, l'évêque l'a mis à la paroisse de Saint-Jérôme.
OK.
Et là, il a commencé à vouloir travailler pour aller chercher des colons.
Ouais.
Et son ami Arthur Louis s'est joint à lui en 1979. Mm. Et ensemble, ils ont travaillé beaucoup pour développer le Nord, développer cette... Ça s'inscrit très bien, dis-je, dans un... Avec la fameuse série qu'on va écouter, là, avec très sérieusement, qui est très bien fait d'ailleurs.
Oui.
Très bien fait, ah oui. Et c'est vraiment, en même temps, on apprend l'histoire.
Bon.
Ben, c'est merveilleux. Fait qu'il y a des belles choses à lire.
Bon, ben c'est
même
formidable.
Le froid nous fatigue pas trop.
Ah, belle suggestion. Vous savez, cette émission, quand vous l'entendrez dans deux semaines, est très axée sur l'histoire. Ne la manquez pas, vous qui aimez ça, Gérard, parce que vous allez l'adorer. Voilà.
D'accord.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve dans deux semaines, en principe, si tout va bien.
J'espère bien.
D'accord.
Je vous embrasse. Je salue tous vos auditeurs. Bye bye.
D'accord. Prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Il y a, vous avez peut-être reconnu, c'est le jingle qui annonce la bande-annonce de la semaine prochaine. Je dois dire que l'auteur que je vais interviewer est peut-être celui qui a été l'un des plus cités par les invités, même par les non-voyants qui parlent de livres également depuis 3 ans que j'anime cette émission-là. On parle de Simon Roy et de son livre « Ma vie en rouge ». Kubrick, oui, vous en avez déjà entendu parler là, mais cette fois-ci, c'est l'auteur qui va nous en parler. Un petit résumé d'abord. Vous vous souvenez du film « Shining » de Stanley Kubrick, cette histoire étrange située dans un hôtel où s'installe hors saison un écrivain, sa femme, et leur garçon qui a des pouvoirs un peu extrasensoriels. Un film qui a impressionné un nombre incroyable de gens depuis qu'il est sorti en 1980. Eh bien, en ce qui concerne Simon Roy, il a découvert ce film, The Shining, à l'âge de 10 ans. Et lorsqu'il l'a découvert, c'était un soir où il était tout seul à la maison. Sa maman était rendue en face en train de jouer à je ne sais plus quel jeu chez les voisins. Alors lui, il était ravi parce qu'il pouvait zapper sur sa grosse zapette en mangeant des chips et tout ça. Et il tombe sur une scène de Shining, qui est celle notamment où un des personnages demande au petit garçon « Tu aimes les glaces, canard ?» Alors, et c'est complètement... Et là, le môme, il capote, il ferme la télé, il envoie balader les chips, il traverse la rue, il va chercher sa mère et il est à la fois complètement terrorisé puis complètement séduit par cette simple phrase-là. Et du coup, il va revoir ce film-là, je ne me souviens plus combien de fois, mais il nous le dira, je me demande si ce n'est pas 20 ou 40 fois. Et il écrit ce livre, ma vie rouge Kubrick. C'est tellement, c'est bien fait, en fait c'est un essai, c'est la relation méticuleuse entretenue avec ce récit maléfique-là, qui lui permet aussi d'intégrer des éléments troubles avec sa propre généalogie macabre. Évidemment, il en accuse le coup. C'est vraiment un ouvrage qu'on qualifie de singulier et de stupéfiant. Lorsque c'est sorti en octobre 2014, dans Châtelaine, on pouvait lire entre le roman, l'essai, le récit. Bref, c'est plutôt inclassable, mais c'est dur et c'est dérangeant. Et c'est d'abord un ouvrage sur une grande fascination pour le film culte The Shining, que doucement l'auteur met en parallèle avec sa propre vie et son propre besoin d'écrire. Dans la presse, on lisait que Simon Roy mélange les formes de l'essai au roman, là aussi, en intégrant ses traumatismes personnels à son analyse du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, d'où « Ma vie en rouge, Kubrick ». Un petit extrait très court. « Contrairement à ma mère, jamais je ne dois perdre de vue le fil d'Ariane. La seule issue heureuse consiste à avancer obstinément vers la lumière, apprendre à marcher avec mes cicatrices ouvertes. Je n'ai guère le choix. » Je dois laisser les rayons du soleil pleuvoir sur moi, comme les versets d'un ciel irradiant, d'un magnifique rouge Kubrick. C'est très bien écrit, je suis dedans en ce moment jusqu'au cou et je me régale à l'idée de recevoir, je vous le disais, la semaine prochaine, Simon Roy pour le livre « Ma vie en rouge Kubrick ». Au moment où j'enregistre cette émission, il y a un événement qui est très très attendu au marathon. Il s'agit d'un marathon de lecture autour du livre Moby Dick d'Herman Melville. Les amateurs du roman Moby Dick de partout autour du monde se préparent à un marathon de lecture du classique d'Herman Melville. Là, c'est un article paru dans Le Devoir que je suis en train de vous lire, un article paru il y a quelques jours. Le musée de la pêche à la baleine de New Bedford au Massachusetts tiendra ce week-end la 20e lecture ininterrompue, ce sera la 20e fois, du roman. Ce qui a débuté de façon très modeste selon le directeur du musée James Russell est devenu un véritable événement de 4 jours qui culmine avec une lecture à voix haute de 25 heures par quelques 150 bénévoles. Des centaines de personnes assistent à l'événement et des milliers d'autres le regardent en web diffusion. Ce rendez-vous, figurez-vous, est devenu si populaire que les places de lecteurs se sont envolées en une heure. Ces lecteurs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des adolescents, des nonagénaires, des spécialistes d'Herman Melville et des descendants de l'écrivain. Ils viennent des États-Unis, ils viennent de partout dans le monde. Des parties du livre seront lues dans d'autres langues, notamment en français, en espagnol et en néerlandais. Et cette année, il y a des enfants âgés de 8 à 12 ans qui liront en 2 heures une adaptation de Moby Dick pour enfants. Ça m'a donné envie de vous donner l'envie de relire peut-être Moby Dick de Herman Melville. Et si vous me le permettez, je voudrais prendre un petit 2 minutes pour vous lire un extrait à mon tour de Moby Dick. C'est l'extrait « Le sceau » de Moby Dick. Achab avait raison. Dans l'impétuosité de leur impatience, les hommes avaient pris autre chose pour souffle, comme on l'allait voir, car à peine Achab avait-il atteint son perchoir, à peine l'estrope était-elle amarrée au cabillaud du pont, qu'il donna l'accent tonique d'un chef d'un orchestre qui retentit comme une décharge d'artillerie. 30 poumons de cuir lancèrent ensemble un cri de triomphe, cependant que, beaucoup plus près du navire que le souffle imaginaire à moins d'un mille sur l'avant, Moby Dick en personne apparut. Et ce n'était pas par des souffles calmes et indolents, ni par le paisible jaillissement de sa course mystique que la baleine blanche révéla sa présence, mais par le phénomène beaucoup plus étonnant du saut. Montant des profondeurs à sa plus extrême vitesse, le cachalot projette ainsi sa masse tout entière à l'air libre et la montagne d'écume éblouissante qu'il a soulevée le dénonce à une distance de 7000 et plus. En de pareils moments, sur les vagues furieusement arrachées qu'il secoue, ce saut, parfois, est un défi. « La voilà qui saute! La voilà qui saute !» fut le cri qui accompagna les incommensurables bravades de la baleine blanche se lançant vers le ciel comme un saumon. Si brusquement surgie dans la plaine bleue de la mer et projetée sur le bleu encore plus intense du ciel, l'écume qu'elle avait soulevée brilla de façon insupportable, aussi aveuglante qu'un glacier, puis son éblouissante intensité s'atténua progressivement jusqu'à n'être plus que la brume indistincte qui, dans la vallée, annonce une averse. « Oui, accomplis ton dernier saut vers le soleil, Moby Dick !» s'écria Achab. « Ton heure est venue et ton harpon est prêt. Tous en bas, sauf un homme aux mains de misaine. Allez les baleinières, parez !» Un extrait de Moby Dick de Herman Melville. J'espère bien que vous allez relire à un moment donné ce bouquin-là. Que serait cette émission sans les titres en rafale? Les voici. C'est incroyable parce qu'on va encore rester un peu dans l'histoire, du moins avec le premier livre que je vous présente en rafale aujourd'hui. Ça s'appelle « Les rescapés de Berlin », c'est de Janine Tessier. Il s'agira d'une série, là pour le moment c'est le volume 1 qui vous est présenté en version audio adaptée via le SQLA. Nous sommes à Berlin en 1942. Le baron Johann von Steinert, un colonel SS au sein de la Gestapo, et sa femme Else ont invité des proches d'Hitler à la réception qu'ils tiennent annuellement dans leur somptueux manoir en banlieue de Berlin. En cette année où l'idéologie nazie s'impose avec hargne et violence sur toute l'Europe, les invités, qui sont triés sur le volet bien sûr, discourent avec verve sur la supériorité de l'Allemagne. Dans leur délire fanatique, ils ne peuvent se douter que 2 ans plus tard, la situation ne sera plus la même. Les ennemis avancent vers la capitale allemande et, du manoir, on entend l'écho incessant des bombardements qui mettent Berlin à feu et à sang. La sécurité d'Else et de ses quatre enfants, est menacée, alors que les bombes ennemies détruisent leur résidence ainsi que leur usine et que les Russes approchent à grands pas. Ils doivent entreprendre un long exode vers l'ouest, à l'autre bout du pays, où devrait les accueillir Magnus, le frère de Johann. C'est un parcours pénible de 650 km qui sera semé d'embûches, de problèmes, de périls, de dangers et de morts. La faim, la peur de rencontrer l'ennemi ainsi que le froid et le mauvais temps seront leurs fidèles compagnons jusqu'à Düsseldorf. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, telle que vue par les Allemands, de l'intérieur, de Berlin, rendez-vous avec Les Rescapés de Berlin, volume 1 de Janine Tessier, T-E-2-S-I-E-R. Peut-être avez-vous entendu, il y a quelques semaines, nous avons perdu Pierre Boulez, compositeur, mais également chef d'orchestre. Et elle tombe comme ça, le livre « Les neurones enchantés, 2 points, le cerveau et la musique » de Pierre Boulez est maintenant disponible en audio adapté. Ce qui se passe dans la tête du créateur, du compositeur, lorsqu'il crée, eh bien, ce qui se passe demeure encore inconnu. Et c'est ce mystère que se propose d'éclairer ce livre. La création artistique relève-t-elle de processus intellectuels et biologiques spécifiques? Peut-on s'approcher au plus près de son mécanisme pour parvenir à comprendre comment un compositeur, un musicien, un chef d'orchestre choisit de mettre ensemble telle et telle note, de faire se succéder tel et tel rythme, de faire émerger du neuf, de produire de la beauté, de susciter l'émotion? La compréhension de ce qui se déroule dans le cerveau du compositeur lorsqu'il compose par exemple le Sacre du printemps ou le Marteau sans maître est-elle possible? Alors voyez-vous, ce sont toutes ces questions-là que se pose Pierre Boulez et surtout qui tente d'y répondre. Il tente d'y répondre, Pierre Boulez. On le dit aussi ici, tenter de constituer une neuroscience de l'art. Tel est l'enjeu de ce livre qui procède d'un débat entre Jean-Pierre Changeux, le neurobiologiste qui a fait du cerveau l'objet privilégié de ses recherches, et Pierre Boulez, le compositeur, pour qui les questions théoriques liées à son art, la musique, ont toujours été essentielles. Et en plus, il y a un musicologue qui est venu apporter son propre éclairage, c'est Philippe Manoury. C'est un livre profondément nouveau et c'est un événement intellectuel à ne pas manquer pour célébrer notamment la mémoire de Pierre Boulez. « Cette jeune femme-là a des yeux tellement bleus qu'on rêverait de plonger dedans. Eh bien, elle, elle a plongé, c'est le cas de le dire, elle a plongé dans la vie toute sa jeune vie. Il s'agit d'Emily Emmons. Quand il est question de cette jeune femme, on pense évidemment à ses yeux azur, cette jeune femme qui a marqué l'histoire du sport du plongeon avec 4 médailles en 4 Jeux olympiques et un titre de championne du monde en 2003. Mais derrière les faits saillants se cache une somme de travail affolante. Se cache aussi des sacrifices assumés, des complexes difficiles à imaginer. Parce que cette jeune femme-là a beaucoup souffert. Elle était très complexée par rapport à son corps. Et il faut dire qu'on ne l'a pas aidée, notamment son entraîneur qui lui disait toujours « faut que tu maigrisses, faut que tu maigrisses, faut que tu maigrisses ». Bref, elle a vécu un véritable calvaire pour aller les chercher, ces 4 médailles et ce championnat du monde. C'est l'histoire d'Emily Emmons, telle qu'on vous la propose dans le livre « Plongée dans la vie ». Alors ça, c'est complètement fou. Ça s'appelle « La nuit de Maritzbourg », M-A-R-I-T-Z-B-U-R-G, de Gilbert Sinoué. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la rencontre de Gandhi, mais oui, le Mahatma Gandhi, avec un jeune Allemand. Sa rencontre avec Hermann Kallenbach, qui est un jeune Allemand juif non pratiquant, un brillant architecte. Eh bien, cette rencontre-là va faire naître une relation hors norme, fusionnelle, mais paradoxalement, chaste et donc forcément ambigu. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Gandhi que ce qu'on en sait déjà, c'est un livre à lire et tellement bien écrit. Gilbert Sinoué a une plume formidable. Sinoué, S-I-N-O-U-E, La nuit à Maritzbourg. Juste un petit mot pour Jack Kerouac, Réveille-toi, la vie du Bouddha. Nous sommes dans les années 50, alors que Kerouac, éduqué dans la religion catholique, découvre avec fascination le bouddhisme. Alors ce livre-là, Jack Kerouac, Réveille-toi, la vie du Bouddha, eh bien nous en apprend beaucoup sur toutes ces révélations personnelles. Eh bien écoutez, je vais encore manquer de temps, je vais encore bouler pour vous dire au revoir, mais ça fait rien. Merci beaucoup à mes invités, André Vincent, Anne de Léan et Gérard Saint-Denis. Merci Jean-Sébastien Laliberté, merci à vous d'être là fidèlement et bonne lecture. À la semaine prochaine.